Et le journal vous est présenté par Jeanne Serrin. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir à toutes et à tous. Des milliers de personnes réunies à Châteauroux pour la marche blanche organisée en hommage à Matisse. Cet adolescent de 15 ans a été poignardé à mort lors d'une rixe samedi dernier. La marche a réuni 8000 personnes. À Lyon, plusieurs collectifs et associations dénoncent l'expulsion d'une centaine de femmes et d'enfants d'un gymnase de la ville, une occupation qui avait été organisée pour dénoncer le manque d'hébergement d'urgence. Cette nouvelle salve de négociations sera-t-elle la bonne ? Les négociateurs du Hamas et d'Israël sont arrivés au Caire pour de nouveaux pourparlers sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La possibilité d'un accord n'est pas à exclure. Enfin, c'est une catastrophe climatique qui touche le Kenya et la Tanzanie depuis plusieurs jours. Des pluies torrentielles et des inondations ont fait des centaines de victimes. Et les autorités se préparent à l'arrivée d'un cyclone dans les prochaines heures. La marche blanche en hommage à Matisse s'était lancée cet après-midi à Châteauroux. Une marche silencieuse, solennelle et un recueillement absolu pour cet adolescent de 15 ans qui avait été poignardé à mort lors d'une rixe samedi dernier. Près de 8000 personnes étaient présentes aujourd'hui et dans le cortège, Sonia, une habitante de Châteauroux.
On est tous choqués parce que c'est une petite ville, il se passe pas grand-chose, on va dire, comparé à d'autres grandes villes de France. Et aujourd'hui, on est sous le choc. Par rapport à la situation, un enfant qui malheureusement a eu un acte horrible sur un autre enfant. Je pense que ça touche tout le monde, qu'on soit parent, pas parent, blanc, noir, gris, vert. Ça touche tout le monde en fait. Aujourd'hui, il faut que ça cesse, il faut que la justice française peut-être agisse mieux pour les enfants de moins de 16 ans. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est un dernier hommage à Matisse et pas d'esclandre, pas de propagande politique, que tout se passe dans la bienveillance.
Sonia, habitante de Châteauroux, au micro de Benjamin Elie. Et en marge de cette marche, le préfet du Tarn a quant à lui décidé de prendre un arrêté d'interdiction des manifestations à Albi pour la journée de demain. Un groupuscule d'extrême droite souhaitait se rassembler en hommage à l'adolescent. La préfecture craint des affrontements avec des groupes d'ultra-gauche. Un rassemblement ce matin à Lyon devant la mairie pour dénoncer le mal-logement et l'expulsion hier soir de 170 femmes et enfants sans abri d'un gymnase du 8e arrondissement de la ville. Il avait été brièvement occupé dans l'après-midi pour mettre à l'abri ces femmes dont plusieurs sont enceintes et ces enfants dont 7 bébés. Le collectif Solidarité entre femmes à la rue, à l'initiative de cette action, dénonce le manque d'hébergement d'urgence. Caroline Félix.
Ce gymnase a été investi par des femmes qui dorment habituellement dans des halls d'immeubles ou sous des tentes, épuisées par une semaine de pluie. Une centaine d'entre elles sont venues avec une cinquantaine d'enfants. Camille, du collectif Solidarité entre femmes à la rue.
L'idée du gymnase, c'est d'avoir un lieu dans lequel on est à l'abri, le temps d'obtenir des solutions, le temps de négocier avec les institutions. C'est un espace qui nous rend visible aussi parce que c'est un espace où on s'organise.
Mais la police est rapidement venue, notamment sur demande de la ville de Lyon. Les femmes SDF ont évacué les lieux un peu avant minuit.
Ça a été hyper dur de sortir de là aussi tard, à 23h sans solution pour personne, les enfants qui pleurent, avec tout le monde qui a faim et qui est fatigué. Enfin voilà, c'était vraiment pas une très bonne soirée.
Sandrine Runel est adjointe socialiste aux Solidarités à la mairie de Lyon et elle assume avoir fait évacuer le gymnase aussi vite.
Que les personnes elles soient contraintes de quitter les lieux hier soir ou ce matin, le résultat est le même. Ce qu'on cherche, c'est des solutions pérennes et pas juste une occupation de gymnase. Le coup de force, il doit se faire avec les services de l'État et pas avec la ville de Lyon en fait. Nous voulons bien évidemment faire en sorte que toutes ces familles-là, elles aient un lieu d'accueil digne et qu'elle ne se retrouve pas à la rue.
La préfète du Rhône a annoncé, elle, en début d'année, la création de 300 places d'hébergement d'urgence. Mais pour l'instant, on n'en a pas vu la couleur, dit Sandrine Runel.
Caroline Félix, la communauté ouïghour française exprime sa colère à la veille de la visite du président chinois Xi Jinping en France. Une manifestation à l'initiative d'Amnesty International a eu lieu aujourd'hui à Paris pour réclamer au président Emmanuel Macron que la question des droits de l'homme soit au cœur de cette visite diplomatique. Nouvelle réunion au Caire aujourd'hui entre les négociateurs du Hamas et d'Israël et des pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis pour peut-être fixer enfin un accord de trêve. C'est en tout cas la troisième tentative de négociation. Le Hamas a annoncé hier soir qu'il se rendait dans un esprit positif à ces discussions au Caire. Alors cette fois, quelles sont les raisons d'y croire? Hassni Abidi est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Il analyse les chances de parvenir à une trêve.
Il y a une offre et le Hamas est sommé de donner cette réponse. Il n'a pas intérêt à ne pas répondre et c'est pourquoi fois une nouvelle délégation conduite par un membre important, c'est le numéro 2 du Hamas à l'intérieur, qui va conduire cette délégation au Caire aujourd'hui. Ce qui sort un peu des dernières négociations, c'est que le Hamas, et même les parrains, d'abord le Qatar et les Égyptiens qui jouent un rôle beaucoup plus important que les précédentes négociations, penche plutôt pour une trêve importante, conséquente, mais aussi pour geler l'opération de Rafah.
Hasni Abidi au micro de Benjamin Fontaine. Un médecin britano-palestinien s'est lui vu refouler l'entrée sur le sol français aujourd'hui à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Recteur de l'université de Glasgow, Hassan Abou Sitta se rendait en France pour témoigner devant le Sénat de son expérience de médecin à Gaza et notamment dans l'hôpital Al-Shifa. Selon une source policière, une fiche d'interdiction de l'espace Schengen a été émise à son encontre par l'Allemagne, pays où il s'était déjà vu refuser l'entrée en avril. C'est un revers électoral massif pour les conservateurs. Jeudi, les Britanniques se sont rendus aux urnes pour les élections locales pour désigner leurs élus locaux et les derniers résultats confirment une victoire du camp travailliste, à l'image de la réélection du maire de Londres, Sadiq Khan, pour un troisième mandat consécutif. Une défaite inquiétante donc pour les conservateurs puisqu'elle survient à quelques mois des élections législatives, Laura Calmus.
Ils sont au pouvoir depuis 14 ans au Royaume-Uni et commencent à ressentir les premiers signes de leur déclin. Les conservateurs subissent aujourd'hui leur pire défaite en 40 ans pour un scrutin local. Du nord au sud, la carte du pays se teinte de rouge, couleur du parti travailliste. À ce stade, le Labour a gagné 185 sièges supplémentaires, tandis que les conservateurs en ont perdu 473. Une perte substantielle pour les uns et une nouvelle victoire pour d'autres, avec Sadiq Khan qui conserve son poste de maire de Londres. Malgré les critiques sur la nouvelle taxe appliquée aux véhicules les plus polluants et les préoccupations concernant le taux de criminalité, Sadiq Khan obtient même de meilleurs résultats qu'il y a 3 ans. Pour le chef du Labour, Keir Starmer, ces élections marquent le début d'une nouvelle ère, une étape essentielle avant les élections législatives à venir. La date de ces élections n'a d'ailleurs toujours pas été annoncée, bien qu'elles doivent se tenir avant la fin de l'année. Rishi Sunak espère encore pouvoir renverser la vapeur. Il s'accroche aux petites victoires. Il s'est même déplacé pour saluer le vainqueur de Tees Valley et scrute l'élection du maire de Birmingham où leur candidat pourrait être réélu.
Laura Calmus à Londres pour France Culture. Au Kenya, 210 personnes ont perdu la vie suite aux inondations et aux glissements de terrain de ces dernières semaines. Elles sont 155 en Tanzanie. La saison des pluies, particulièrement violente cette année, a entraîné la destruction de routes, de ponts et d'habitations. Plusieurs milliers de personnes ont été déplacées. Et pour ne rien arranger à cette situation, les deux pays attendent avec inquiétude le passage d'un cyclone qui pourrait toucher leurs côtes dans les prochaines heures. Les autorités kenyanes se préparent. À Nairobi, notre correspondante Alban Tiroir.
Aucun coin du pays n'a été épargné, c'est ce qu'a déclaré le président du Kenya, William Ruto, hier devant la presse. Il a prévenu que la situation risque de s'aggraver. Les prévisions météorologiques annoncent selon lui un scénario désastreux. Les pluies devraient continuer jusqu'à la fin du mois. Et surtout, le cyclone Idaya pourrait toucher ce week-end la côte est du pays. Selon l'agence météorologique kenyane, les effets se faisaient déjà ressentir au large de l'océan Indien ce matin, avec des vents à plus de 40 nœuds et des vagues dépassant les 2 mètres. En anticipation, la rentrée scolaire kenyane qui était prévue lundi dernier est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement a aussi ordonné l'évacuation de toutes les zones à risque, notamment autour de 178 barrages, rivières ou réserves à eau qui ont été identifiés comme étant à risque de débordement. Plusieurs quartiers de la capitale qui ont déjà subi de fortes inondations sont concernés. Des habitations ont même été démolies par les autorités hier dans un bidonville de Nairobi pour forcer les populations à évacuer. Mais ces dernières dénoncent ne pas avoir été relogées. Une mesure prise alors que le gouvernement est déjà sous le feu des critiques. Plusieurs membres de l'opposition et de la société civile accusent les autorités d'avoir manqué de prévoyance en dépit des alertes météorologiques et d'apporter une réponse tardive et inadéquate aux populations affectées.
Et c'est un phénomène climatique semblable et tout aussi alarmant qui s'abat au Brésil. 56 morts et au moins 67 disparus suite là aussi aux intempéries qui s'abattent sur le pays depuis le début de la semaine dans l'état du Rio Grande do Sul au sud. Pour le gouverneur, il s'agit du pire désastre climatique
presque jamais vu dans cet état frontalier avec l'Uruguay et l'Argentine. Le temps demain, des nuages nombreux au nord et des averses de la Bretagne jusqu'en Normandie. Dans l'après-midi, des orages sont attendus dans le sud-ouest et se déplaceront jusqu'au nord-est. Quant aux températures, elles varieront entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord et sur le pourtour méditerranéen, il fera entre 17 et 20 degrés.